OK, c'est fait qu'on va aller dans Genèse au chapitre 33, si vous voulez vous lever, on va lire le passage verset 1 à 20. Genèse chapitre 33, les versets 1 à 20. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre sept fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux-ci que tu as là? » Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? » Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui, et Jacob et Ésaü accepta. Ésaü dit, « Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. » Ésaü dit, « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, « Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. À son retour de Padamaram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kesita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, j'ai intitulé tout simplement le sermon d'aujourd'hui « Les enseignements du Seigneur expérimentés par Jacob ». Alors, on le sait que le Seigneur, pour chacun de ses élus, pour Jacob en particulier, dans notre, le Seigneur nous enseigne des choses. Et il procède toujours de la même façon. Il procède d'abord en nous enseignant des principes. Autrement dit, on apprend dans la Bible ce que Dieu veut, ce qu'il ne veut pas. Donc, c'est des principes. Ensuite, il nous fait expérimenter les choses. Il nous fait passer à travers l'expérience. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais disons que vous aimeriez montrer à quelqu'un comment faire de l'informatique, comment faire un site web, par exemple. Vous pouvez l'asseoir à côté de vous, dire, regarde, attends le montrer. Là, tu tapes toutes tes affaires toi-même, tu fais toutes tes affaires toi-même, tu dis, là, tu le sais-tu? Pourquoi il ne sait pas? Parce qu'il ne l'a pas fait lui-même. Mais la Bible, c'est la même chose. Dieu nous enseigne d'abord des principes, ensuite, il nous enseigne à mettre en pratique ce qu'on a appris. Donc, l'expérience. Dieu se sert de deux choses pour nous enseigner, autant ses élus de cette époque-là que nous aujourd'hui. Il se sert des principes, il nous enseigne des principes. Quand on a commencé avec la Bible, moi je me souviens, la personne qui m'a emmené au Seigneur, m'a emmené, je l'avais rencontré avec un autre gars. Puis on s'est mis à parler de la Bible comme ça. Puis, il y avait une petite Bible, là, comme on a les petites Bibles Louis II 1910. Il sort ça, puis il se met à se promener là-dedans. Pour vous dire, moi j'étais un jeune converti, je connaissais zéro la Bible, il m'impressionnait. Pourquoi il m'impressionnait? Parce que je me rendais compte que ce qu'il disait, ce qu'il mettait en pratique, il connaissait sa Bible. Pour lui, ce n'était pas un livre inconnu. Il se promenait là-dedans, je voyais qu'il n'y avait pas de problème. Alors, comment veux-tu connaître la volonté de Dieu qui est révélée dans les Saintes Écritures si tu ne lis pas la Bible, si tu n'apprends pas à la connaître? Connaître la Bible, c'est un livre, dépendamment des versions, au moins 1200 pages. Ça prend du temps à lire. Ça prend du temps surtout à comprendre. Parce que la Bible, même si ça fait 30 ans qu'on la lit, même si on l'a étudiée pendant 10 ans, même si on a lu 200 livres, 2000 livres, 20 000 livres, la bibliothèque de Charles Spurgeon, on dit qu'il y avait 15 000 livres, ils avaient tout lu. 15 000 livres! Et pensez-vous qu'à la fin de sa vie, il connaissait le Seigneur à la perfection?
Non.
Mais il avait appris plein de choses sur la volonté de Dieu. C'est révélé dans les Écritures. On ne peut pas vivre une vie chrétienne bien, une bonne vie chrétienne, si on ne connaît pas les Écritures. C'est les principes. Les principes sont là. Mais le Seigneur va faire en sorte qu'à un moment donné, quand tu vas avoir compris les principes, il va te faire vivre des expériences pour voir si tu as bien compris. Alors, il a fait ça avec Jacob et il va le faire aussi avec nous. Alors, on se rappelle que Jacob était parti de chez lui pour aller chercher une femme pour se sauver de son frère Ésaü qui était en colère. Il avait été là pendant 20 ans. Il s'est fait tromper par son beau-père Laban en se faisant passer une femme pour celle qui ne voulait pas. Il a appris de son beau-père. Son beau-père, il a montré comment vivre pendant ces 20 ans-là. Et là, il s'en retournait. Dieu lui avait dit, « Maintenant, c'est le temps que tu t'en ailles, que tu retournes dans ton pays. Je serai avec toi, je t'accompagnerai, je ne t'abandonnerai point jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'ai dit. » Alors là, lui, il s'en retourne, mais il avait été comme... Il se fiait sur ses propres méthodes. « Mon frère, il est choqué après moi. Puis il veut me tuer. » Alors, moi, j'ai bien des bêtes. Fait que je vais y envoyer parti mouton. Un petit groupe de bêtes. Là, Ésaü va te demander, c'est quoi ça? C'est les bêtes que Jacob veut te donner. Là, il a envoyé un autre groupe. Il fait ça comme ça. C'est un wise, il était wise, mais la chose qui ne se rendait pas compte, c'est que quand vous lisez le texte d'aujourd'hui, la rencontre a été pacifique et surprenante. Pour un gars qui voulait tuer son frère, il saute au cou, puis il s'embrasse, puis il pleure. C'est ça qu'on s'attendait? On ne s'attendait pas tout à fait à ça. Mais est-ce que c'était les cadeaux ou la préparation que Jacob avait fait en lui envoyant des bêtes, qui l'avait attendri son cœur, qui avait préparé son cœur, ou si c'était Dieu? Bien sûr, on le sait que c'est Dieu qui avait préparé le cœur d'Ésaü. Autrement dit, Jacob était dans l'obéissance. En retournant dans le pays où Dieu lui avait dit d'aller, et il bénissait son obéissance. Lui, malgré que Dieu lui avait dit, je vais être avec toi. Il se fiait encore. On se reconnaît-tu un petit peu? Dieu nous fait des promesses. Nous, on se fie un petit peu plus à nous qu'à Dieu, malheureusement. Alors, on voit dans le texte ici que Dieu avait d'abord préparé Jacob par des connaissances. Il avait d'abord enseigné des principes. Quels principes il avait enseigné au cours de tous ces 20 ans-là? La faiblesse de la chair. Autrement dit, sa chair. Dans notre chair, quand on parle de notre chair, on ne parle pas de la peau, là. On parle de notre nature pécheresse est encore là, même après notre salut. Et on le sait qu'elle est faible parce qu'à chaque jour, on vit des expériences pour nous montrer Le Seigneur nous fait vivre les expériences pour nous montrer que notre nature pécheresse, même s'il nous a sauvés, elle est encore faible. Et il nous avait montré aussi, il avait montré à Jacob sa toute-puissance pour le protéger. Combien de fois au cours de ces 20 ans-là, son beau-père a essayé autant comme autant de s'arrêter juste de son beau-père, là, il sera reparti au bout de 20 ans, il est arrivé tout nu, comme on pourrait dire, et il sera retourné tout nu. Il s'arrêtait juste de son beau-père. Dieu l'a protégé. Il a permis qu'il puisse accumuler des richesses. Il lui avait aussi montré la direction, il l'avait soutenu, et il l'avait accompagné, et il lui avait démontré que Dieu est fidèle dans l'accompagnement qu'il fait dans nos épreuves. Et il l'avait aussi instruit sur le fait que nos armes de combat ne sont pas charnelles. Il lui avait aussi, bien entendu, enseigné la foi dans sa parole, dans l'efficacité de sa prière. Au cours des 20 ans, Jacob avait appris que quand tu as un problème, la seule façon de le régler, c'est pas d'essayer de le régler par toi-même. On est tous portés à faire ça. On a un problème, on essaye d'abord de le régler par nous-mêmes. Mais oui, plutôt que d'aller tout de suite au Seigneur. Tu n'es pas capable de régler le plus petit de tes problèmes. Spirituellement, face à Dieu. Alors, tu as besoin d'apprendre l'efficacité de la prière et tu as besoin d'apprendre la dépendance envers Dieu. S'il y a un mot qui n'est pas populaire de nos jours, c'est bien la dépendance. On veut être indépendant. Moi, je ne veux pas dépendre de personne, ni de mon père, ni de ma mère, ni de mon grand-père, ni de ma grand-mère, ni de la société. Je ne veux pas dépendre de personne. Pourtant, la Bible, elle veut t'enseigner à dépendre de Dieu tout le temps, en tout temps, en toute occasion. Et aussi, il avait appris au cours de ces 20 ans-là, bien entendu, l'humilité, parce qu'il en avait pris pour son rhume, comme on dit, et Dieu lui avait fait découvrir des grâces innombrables qu'il a vécues au cours de ces 20 ans qu'il était avec l'amant. Et, bien entendu, quand son beau-père l'avait rejoint, là, puis que l'amant était en colère, puis qu'ils se sont rejoints, là, lui devait penser, ça y est, je suis fait, il va reprendre sa femme, il va reprendre ses deux filles, il va reprendre ses troupeaux, puis il va... Dieu a encore permis que ça se fasse dans la paix. Et là, il s'apprête à rencontrer son frère, et il est sûr que ça va tourner à la catastrophe. Il est sûr que Ésaü va se choquer après lui, parce que là, il voit apparaître avec... Le moment de vérité est arrivé pour lui. Il voit son frère arriver avec 400 hommes. C'est un peu comme si vous iriez rencontrer quelqu'un que vous êtes certain qu'il est votre ennemi, puis il vous a dit qu'il voulait vous tuer, puis là, tu le vois apparaître avec 400 personnes. Je ne sais pas comment tu filerais, mais moi, je... Mais s'il avait vraiment cru en Dieu, il n'aurait pas eu peur du tout. Il avait peur pareil. Alors, Dieu l'avait enseigné d'abord les principes. Pas quatre principes que je viens de vous enseigner. Mais là, il faut qu'il fasse comprendre les choses par l'expérience. Alors, les principes qu'il a appris, Dieu va faire permettre en sorte qu'il va, il va devoir les mettre en pratique, là, et que ça soit plus de la théorie, que ça soit faire confiance à Dieu. Imaginez la surprise. Vous voyez apparaître votre frère qui veut vous tuer. Puis quand que Ésaü a vu son frère, plutôt que de sortir son épée et de dire « Toi, ça fait longtemps que je t'en veux, voilà ma chance », son frère, il court vers lui, il saute au cou, il se met à pleurer. Imaginez-vous dans la peau de Jacob comment quand il devait filer. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il fallait qu'il se rende compte que c'est Dieu qui permettait que ça se produise de cette façon-là. Alors, pendant 20 ans, Jacob a vu son caractère transformer graduellement et lentement. Alors, Dieu a transformé son caractère. Il avait une grande tendance à la tromperie, comme on savait, à tromper son, trompé son père en lui disant s'est mis du poil ses mains, en tout cas, il était. Alors, Dieu lui a fait rencontrer quelqu'un, chaussure à son pied, pour lui apprendre que, comme maître trompeur, son beau-père est encore meilleur que lui. Alors, Dieu lui avait dit dans Genèse 28, 15, dans le rêve de l'échelle, « Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que je t'ai dit. » Normalement, juste cette petite phrase-là, là, s'il avait vraiment cru Dieu, est-ce qu'il aurait eu peur de rencontrer son frère Ésaü? S'il avait vraiment fait confiance à Dieu, Dieu dit, je vais être avec toi, je vais t'accompagner, tu vas te rendre jusqu'où que je t'ai dit, jusqu'à temps que je l'ai accompli. Mais il a peur encore. Regardez-les agir. L'Éternel nous dit, dans Proverbes chapitre 16, verset 7, « Quand l'Éternel prend plaisir aux voix d'un homme, il apaise envers lui même ses ennemis. Il était dans la volonté de Dieu, il obéissait à ce que Dieu lui avait dit, « Retourne dans ton pays. » Il était dans la volonté de Dieu, et Dieu fait exactement ça. Il apaise son ennemi. Alors, après sa lutte avec l'ange, Jacob avait beaucoup appris sur la souveraineté de Dieu, sa toute-puissance et sa grâce. Il lui avait aussi appris des choses sur lui-même, qu'il manquait de confiance en Dieu, qu'il avait la tendance à utiliser des manigances pour se sortir de ses mauvaises situations, et qu'il avait aussi... devait d'apprendre sa dépendance envers Dieu. Et il devait aussi apprendre la puissance de la prière. Mais, comme on le voit dans le texte, son cœur est encore partagé. Parce que, regardez ce qu'il fait. Il lève les yeux et regarde. Voici, Ésaü venait, 400 hommes avec lui. Et là, regardez bien sa manière d'agir. Et il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servants. Autrement dit, si vous regardez l'ordre, il met ceux qui aiment le moins en avant, puis ceux qui aiment le plus près de lui. Alors, c'est encore une manigance. Je ne pense pas que c'est Dieu qui peut sauver tout ça. Lui, il s'organise pour... Et il plaça en tête les servantes et leurs enfants. Il commence par ceux qui aiment le moins. Il met les servantes en avant avec leurs enfants. Après ça... Léa et ses enfants ensuite. Il y a même moins Léa que Rachel. Donc, il met les servantes en avant, les enfants. Léa en deuxième. Et après ça, ça dit Rachel et Joseph au dernier rang. Donc, plus proche de lui. Mais il y a un petit geste de courage. Dans le verset 3, ça dit « Quant à lui, il passa devant eux et se prosterna en terre cette fois jusqu'à ce qu'il se fût approché de son frère. » Il m'a dit, même s'il a mis les servantes en premier, Léa en deuxième, et celle qui aimait le plus en troisième, lui, il s'est en allé en avant. Donc, il s'est mis le plus en danger. Donc, c'est un acte de courage de sa part. Mais c'est encore manigancieux, comme on dit. Il cherchait à... Alors, il place les servantes en premier, puis l'épouse la moins aimée en avant, ensuite suivie de Rachel. Et il y a quelque chose qui est fort probablement dans le texte qui n'est pas dit, mais que lui devait probablement croire que le Messie viendrait par Joseph, le dernier, il le garde proche de lui, parce que c'est l'enfant qui vient de la première femme qu'il voulait, Rachel. Il pensait probablement que le Messie viendrait par elle, mais les Écritures nous disent que Jésus vient par la tribu de Juda, qui était un fils de... la première femme, Léa. Alors, on voit la rencontre dans le verset 4, et là qu'on voit le résultat du travail de Dieu dans le cœur d'Ésaü. Mais Ésaü courut au-devant de lui. Imagine-toi, tu vois ton ennemi arriver, puis tu le vois courir vers toi. J'imagine que dans ton petit cœur, il doit y avoir quelque chose qui doit se passer. Qu'est-ce qu'il veut me faire? Et là, ça dit, et il l'embrassa. Ton ennemi s'en vient, il veut te tuer, Toi, tu t'attends qu'il va sortir son épée, puis il te donne des becs. Quelque part, j'imagine que Jacob devait être extrêmement surpris. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il le baisa, donc il l'a probablement embrassé. Après ça, des petits baisers corrects. Là. Ensuite, ils pleurèrent. Les deux se sont mis à broyer. Pourquoi Ésaü devait être immensément très ému du moment de rencontre. Après 20 ans, il n'avait pas vu son frère depuis 20 ans. Mais il faut croire que Dieu avait permis que le sentiment de colère et de vengeance soit moins fort que le sentiment de rencontre et de joie de rencontrer son frère après 20 ans. Alors, bien entendu, on voit ici comment Dieu a travaillé dans le cœur d'Ésaü. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est la rencontre fraternelle. Autrement dit, Dieu permet que dans la rencontre, on voit beaucoup de choses, des leçons qu'il a apprises au cours de son passé, qui s'accomplissent devant ses yeux. Versets 5 à 7, il leva les yeux et vit les femmes et les enfants. Il lui dit, « Qui es-tu? Qui as-tu là? » Et il répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » C'est intéressant de voir que Jacob, maintenant, lorsqu'il se fait demander quelque chose par rapport à ses biens, ou à sa famille, ou à ses bénédictions, il met Dieu dans l'équation. Puis quand vous regardez ce que Ésaü dit, Dieu n'est jamais dans l'équation. Très, très important de retenir ça. Et il répondit, alors son frère, il demande, c'est quoi ça, tout ce monde-là, là, puis toutes les bêtes que tu m'as envoyées, c'est quoi ça? Il dit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Il reconnaît que ça vient de Dieu, tout cela. Et les servantes s'approchèrent, elle et leurs enfants se prosternèrent, Léa s'approcha et ses enfants se prosternèrent, et ensuite Jacob s'approcha. Vous trouvez où ça fait beaucoup de prosternation? C'est comme Ésaü, c'est comme si ça aurait été Dieu lui-même. Là, c'est comme il est tellement content que, d'après moi, il va un peu trop loin, là. Se prosterner devant son frère. On se prosterne devant Dieu. C'est vrai qu'il peut y avoir, à cette époque-là, une certaine façon d'agir qui était... Mais il reste que, à mon avis, il est un petit peu trop loin. Alors, Dieu lui démontre qu'il est capable de faire bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alors, la chaleur de la rencontre est surprenante et les civilités sont nombreuses et appropriées. Alors, des civilités, quand notre ennemi vient nous rencontrer, on ne s'attend pas qu'il témoigne beaucoup de civilité à notre égard. Et là, ici, tout baigne dans l'huile, tout baigne dans la politesse. Alors, dans les versets 8 à 11, il lui dit, Ésaü dit, « Que veux-tu? Que veux-tu faire avec tout ce camp que j'ai rencontré? » Autrement, il est en train de dire, tous les cadeaux que tu m'as envoyés, c'est quoi ça, cette affaire-là? Et là, il est prêt à refuser parce qu'il vit dans l'abondance. Il dit, je suis moi-même dans l'abondance, j'ai pas besoin de tous ces cadeaux-là que tu m'envoies. Et là, il a tellement peur que lui, Jacob, il insiste, son frère, prends-là les cadeaux. Mais là, il va loin un petit peu. Regardez dans le verset 10, je trouve que vraiment, là, il va même très loin. Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu accepteras mon offrande de ma main, puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu. » Un peu loin, hein, vous dites? Il voit son frère, puis il dit, « Te voir, c'est comme si je verrais la face de Dieu. » En québécois, il y en a qui diraient, c'est têteux un peu, là. Il dit, accepte, je te prie mon présent qui t'a été offert, car Dieu m'a comblé de grâce et j'ai fait, et j'ai de tout. Il pressa, il le pressa donc tant qu'il l'accepta. Jacob veut offrir des dons à Ésaü. Ses cadeaux visent trois buts. Premièrement, il veut calmer la colère d'Ésaü. L'apaiser, trouver grâce auprès de lui. Et quand Jacob constate que son frère Ésaü est bien disposé et qu'il refuse son présent, il le prie de l'accepter quand même comme un sacrifice d'action de grâce. Il dit, reconnais que tout vient de Dieu, prends-les comme un sacrifice d'action de grâce. Et dans l'original, le mot présent, il dit, quand il parle le mot du présent, il utilise le mot présent, accepte, je te prie, mon présent. Semble-t-il que dans l'original, c'est accepte cette bénédiction. Alors, il reconnaît que tout ce qu'il a, tout ce qu'il lui donne, vient d'une bénédiction que Dieu lui a faite. Alors ici, on a un principe quand même important. Jacob a fait un grand tort à son frère en lui volant sa bénédiction, en étant malhonnête avec lui et tout cela. Et on voit ici que Jacob, avec toutes les leçons qu'il a apprises au cours de ses 20 ans, a tendance au moins à essayer de vouloir réparer les torts qu'il a fait envers son frère. Il y a une leçon pour nous. Quand on fait un tort à quelqu'un, il faut faire les efforts pour que l'autre perçoive qu'on veut réparer le tort qu'on a fait dans le passé. Mais on a les bonnes intentions dans le verset 12 à 15. Et là, Ésaü dit, je vais partir avec toi et je vais t'accompagner. Et là, l'autre, il dit, ben non, j'ai des jeunes, des enfants, j'ai des bêtes. On va marcher, nous, à notre pas. Autrement dit, il ne trosse pas encore son frère. Si je comprends bien, là, de la manière qu'il se conduit, il n'a pas plus confiance que ça envers Ésaü. Probablement qu'il est bien content que ça l'ait tourné de cette façon-là. Mais il ne veut pas s'en aller à séhir. Puis il a dit à son frère qu'il s'en allait à séhir avec lui. Donc, jusqu'à un certain point, il ment. Parce que quand il dit... il y a un endroit qui dit... qu'il veut s'en aller à Séhir, il dit à son frère que oui, il veut s'en aller. Séhir, c'était le pays d'Ésaü. Est-ce que le Seigneur avait dit à Jacob de s'en aller dans le pays d'Ésaü?
Non.
Il avait promis de s'en aller dans le pays de Canaan. Alors, mais Jacob, pour ne pas déplaire à son frère, il dit, ben non, laisse pas tes 400 hommes avec moi, laisse-en pas une partie de tes 400 hommes avec moi. Mon troupeau est lent, là, on va marcher au pas des enfants, au pas des... Et dans le fond, c'est comme on sent qu'il y a encore une petite méfiance envers son frère. Tout d'un coup, il change d'idée. En chemin. Troisième verset 16 à 20, lorsque le Seigneur nous enseigne et transforme notre caractère, il le fait au moyen à la fois de l'apprentissage des principes et aussi par l'expérience. Alors, on va regarder versets 16 et 17. Et Ésaü retourna ce jour-là par son chemin à Séhir. Lui, il s'en retourne dans son pays, c'est chez eux. Mais Jacob partit pour Sukkot, alors qu'il avait laissé sous-entendre qu'il suivrait jusqu'à Séhir. Donc, à quelque part, il y a encore un petit joueur de tour. Il bâtit une maison pour lui, fit des cabanes pour son bétail, c'est pourquoi il nomma le lieu Sukkot, qui veut dire cabane. Le Seigneur lui avait dit dans Genèse 31, au verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans le lieu de ta naissance, qui était le pays de Canaan, et je serai avec toi. Si vous prenez la version édition de Genève, encore la même chose, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Même là, quand il arrête à Sukkot pour se faire des cabanes, il ne s'en va pas encore direct dans le lieu où ce que Dieu lui a dit. Il tarde encore. Alors, le pays et le lieu de naissance étaient Canaan et non pas Sukkot. Et il a demeuré là pendant 10 ans. Alors, on voit que des fois, l'obéissance, on s'en va dans la bonne direction, mais on ne va pas comme Dieu nous le dit de faire. Ça ressemble-tu à nous autres un petit peu? Des fois, on s'en va dans la bonne direction, mais on n'obéit pas au rythme que Dieu voudrait qu'on s'installe. Dans le verset 18 et 19, « Et Jacob, venant de Padamaram, arriva sain et sauf à la ville de Shechem, au pays de Canaan. Il campa dans la ville et il acheta de la main des fils de Hémor, père de Shechem, pour 100 pièces d'argent, la portion de champ où il avait dressé sa tente. » Alors, Jacob arrive enfin à destination, en paix et en sécurité. On se souvient qu'Abraham, qui était son père, avait légué à son fils une parcelle de terre au fils de Heth. Jacob acquiert une deuxième parcelle des fils de Hémor, frère de Sichem. On voit aussi l'occupation. Souvent, là, on oublie ce que Dieu avait promis. Dieu avait promis qu'il donnerait un pays. La seule portion de terre que son grand-père avait, c'était la petite portion de terre qu'il avait achetée pour s'enterrer lui-même et sa femme. Donc, sur le pays, il y avait une très petite parcelle. Là, on voit que lui, il achète une autre partie de terre. Alors, on voit que la promesse de Dieu, elle s'accomplit, mais elle s'accomplit lentement. Ils vont finir par l'avoir, la terre complète. Puis, ça a commencé par une terre que Abraham a été obligé d'acheter. Et lui, il en rajoute encore un autre petit morceau, encore plus grand. Et quelque part, on voit que les choses se font, elles se font grandement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le verset 20. Après que tout ça était arrivé, que Dieu a permis une rencontre avec Ésaü qui soit pacifique, après qu'il a eu, lui, hésitation à s'en aller directement dans son pays, il a resté 10 ans à Sukkot avant de rentrer dans Canaan. Il arrive finalement à destination, et là, il semble qu'il veut attribuer à Dieu un signe de reconnaissance. Dans le verset 20, il dit, « Et il dressa là un autel, et il l'appela El Elohe Israël, et qui se traduit Dieu est le Dieu d'Israël. » Dieu lui avait dit qu'il changeait son nom de Jacob en Israël. Et lui, ici, il reconnaît, après avoir tout vécu ces expériences-là, il dressa là un autel et il l'appela El Elohe Israël, qui veut dire Dieu, le Dieu d'Israël. Donc, il est en train de vivre son expérience un peu, si tu veux, mentalement, et reconnaître que Dieu a agi dans sa vie. Et dans le verset 20 et 21, une autre chose intéressante qui est dit, et Jacob fit un vœu, disant, dans le verset 28, dans Genèse 28, verset 20 et 21, on se souvient qu'il avait fait une promesse à Dieu. Il lui avait dit, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce voyage que je fais, et me donne du pain pour manger, des habits pour me vêtir, et que je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. » Voyez-vous, c'était « L'Éternel sera mon Dieu, mais conditionnel. » Si j'ai du pain, si j'ai des vêtements pour m'accomplir, si je retourne en paix à la maison. Mais là, tout ce qu'il avait dit, qu'il voulait que Dieu fasse pour lui, il se rend compte que Dieu l'a fait pour lui. Alors là, c'est comme s'il dit, maintenant, j'ai fait la promesse que si tout ça s'accomplit, Dieu va être mon Dieu. Et là, il reconnaît en bâtissant l'autel et en l'appelant Dieu est le Dieu d'Israël. Il est en train de reconnaître qu'il accomplit la promesse que lui avait dit. Ça nous fait penser un petit peu au royaume de Dieu. Quand Jésus est venu, quand il dit dans Marc 4, verset 30 à 32, Jésus compare le royaume de Dieu au grain de moutarde, le plus petit, la plus petite des semences, semble-t-il. C'est très petit, très, très, très petit. Alors, ça dit, il disait encore, parle de Jésus qui parle, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle similitude le représenterons-nous? Il est comme un grain de moutarde, lequel, lorsqu'on le sème, est le plus petit de toutes les semences qu'on jette en terre. Mais après qu'on l'a semé, il monte et devient plus grand que tous les autres légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent demeurer sous son ombre. Autrement dit, le Seigneur, lorsqu'il est venu, son ministère dans sa vie terrestre, il compare ça à un grain de moutarde. Il dit, là, c'est petit, mais ça va devenir gros. Autrement dit, si on regarde la progression de la religion chrétienne au cours des siècles, le petit grain de moutarde est devenu très gros. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Dieu de la leçon qu'on vient de voir aujourd'hui? La première, je dirais que la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses. Premièrement, celle de l'envoi d'un Messie par la lignée messianique. Abraham, Isaac, Jacob, et c'est pas terminé. Ça va prendre bien du temps avant qu'ils viennent. Mais Dieu, le temps de Dieu n'est pas notre temps. C'est en train de s'accomplir les promesses que Dieu a faites. Donc, il avait fait des promesses, celles de l'Alliance, l'envoi du Messie futur, qui est en train de s'accomplir, mais graduellement, à travers Abraham, Isaac, Jacob et l'ensemble de tout l'Ancien Testament, jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et il avait fait des promesses personnelles, la présence, qu'il serait présent avec lui, qu'il le protégerait, qu'il le dirigerait et qu'il le soutiendrait durant tout son voyage. Et aussi, on peut apprendre de Dieu, dans cette leçon-là, sa bonté à bénir ses élus lorsqu'ils sont dans l'obéissance. Jacob est dans l'obéissance parce que Dieu lui avait commandé de sortir du pays, de se retourner chez lui. Il est dans l'obéissance. Dieu bénit lorsque nous sommes dans l'obéissance. Nous, aujourd'hui, la même chose. Lorsque Dieu nous commande des choses et qu'on est dans l'obéissance, Dieu bénit. Et autre chose qu'on apprend sur Dieu dans ce texte-là, c'est la capacité de Dieu à accomplir au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Un ennemi qui veut vous tuer, puis quand vous le rencontrez, il vous saute au cou, puis il se met à vous broyer tous les deux. Si tu ne vois pas la main de Dieu là-dedans, c'est parce que tu es complètement aveugle. Autre chose, il apprend des choses sur Dieu, mais il apprend aussi sur lui-même. Il apprend que le travail que Dieu fait pour corriger notre caractère, c'est un processus avec plusieurs caractéristiques. C'est long, c'est souffrant, puis parfois c'est pénible. Vous remarquez ça que dans la transformation de votre caractère, que Dieu vous a pris à partir du début, à venir jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a des bouts, vous allez trouver ça long, vous allez trouver ça souffrant, puis vous allez trouver ça pénible. Parce que Dieu n'enseigne pas juste avec des principes, il enseigne aussi par des expériences. Et quand il transforme notre caractère, il ne transforme pas notre caractère juste parce qu'on a acquis des connaissances. Il transforme notre caractère par des expériences qu'il nous fait vivre, comme il le fait vivre Jacob. On a aussi le devoir d'obéir de manière exacte à ce que Dieu nous commande et non pas de se servir de moyens charnels pour arriver à nos fins. Un peu comme on voit lui, il envoie ses femmes en avant, ses servantes en avant, Léa deuxième, sa troisième. Il se sert de moyens charnels pour essayer d'atteindre ses fins. Il aurait été mieux de se fier complètement sur Dieu. Et dernière leçon qu'on apprend sur nous-mêmes, c'est que lorsque Dieu nous bénit, un peu comme il l'a béni là, par le fait qu'il se soit rencontré en paix, on se doit d'exprimer au Seigneur notre adoration et notre gratitude pour les bénédictions qu'on a reçues. Lui, ça a été en élevant un autel. Nous, ça peut être lorsqu'on reconnaît que la main de Dieu a agi dans nos vies avec bonté, on se doit de le remercier. C'est sûr que nous, on n'élèvera pas un autel, mais l'équivalent serait la prière, la louange, l'adoration, assister à tes cultes et prier et obéir à Dieu le plus que tu peux. Alors que notre grand Dieu et glorieux Seigneur soit béni, loué et adoré à tout jamais. Amen.
Amen.